RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time sur RMC, c'est votre rendez-vous basket du mardi sur rmc.fr. Nous sommes en pleine finale, c'est donc un spécial finale, finale NBA et finale Betclic Elite avec la Dream Team, Stephen Brun, Arnaud Valadon, Frédéric Weiss.
Salut Pierrot, salut tout le monde.
Salut Pierrot, bonjour, salut à bonjour. Tous.
Quelle finale vous excite le plus?
Moi, c'est la finale de Roland-Garros dimanche.
Ouais.
Il arrive.
Non, toi, c'est les Dallas Mavericks, on le sait.
13 ans après, Pierrot.
Est-ce que tu vas te faire tous les matchs? T'as vu la programmation?
Non.
C'est 2h ou 2h30 du matin.
Oui, bah non.
Il n'y a pas un match en soirée?
Non.
Ah bah c'est toujours 3h, 2h30, 3h.
C'est ta question.
Et pourquoi? T'es pas un vrai fan des Mavs?
Bah, c'est pas ça, c'est que bon, après, j'ai des points de vie quand même à sauver. Tu vois ce que je veux dire?
Moi, j'ai abandonné.
Alors, toi, tu vas pas les regarder parce qu'il y a Boston?
Fred, je vais les regarder. Évidemment que je vais les regarder.
Mais pas en direct. Ah, et Arnaud Valadon est le seul à cette tablée qui va se lever toutes les nuits.
Non, match décisif, oui. Et première chose le matin, je mets le match en entier. Il y a des fonctions sur le League Pass, tu peux avoir que les possessions. Le match fait 45 minutes, C'est impeccable et tu vois tout.
Et on en discutait avec Fred.
Et sinon, il y a La Rochelle-Boulazac aussi.
Ouais, La Rochelle qui mène 1-0.
Moi, je pense qu'il faut se mettre les trois premiers cartons en accéléré comme tu fais là, c'est-à-dire seulement les possessions.
Ah, s'il y a plus 25 à l'entame du quatrième,
tu continues comme ça, mais si c'est serré, tu te fais le dernier quart en temps réel.
Et toi, tu fais quoi? Tu vas faire quoi, toi?
Je pense que je vais faire ça. Tous les matins,
t'as
45
passe,
minutes. Oui.
T'as le League Pass, toi?
Mais c'est fantastique. Mais
League Pass légal ou...
League Pass légal, absolument. Mais tu sais quoi?
Mais c'est le tien.
Parce que tu m'as dit tout à l'heure, t'es un pirate.
Alors, je suis pirate, ce qui ne vaut pas le coup de payer. Mais la Ligue Pass, on se fout pas de vous. C'est-à-dire que tu payes un produit qui en vaut la peine. Voilà, contrairement au foot français où on te vend des trucs très chers pour pas grand-chose.
Mais juste plein de fonctionnalités, hein. C'est ça.
Mais c'est
pas
fantastique
match,
le Ligue Pass. C'est là pour le coup, il faut le reconnaître quand même.
T'as vu le reportage sur la mort de Stojakovic sur le Ligue Pass?
Non, bien sûr. La mort de Petrovic, peut-être, mais de Stojakovic, on lui souhaite pas, le pauvre. Donc, le programme Celtics, Mavericks, qui est votre favori pour cette finale NBA? Et puis, Paris peut-il faire tomber Monaco? Parce que là, on s'attaque quand même à un autre niveau d'opposition. Et dans la partie historique, puisqu'on a mélangé NBA et Pro A, vous allez me parler de joueurs qui ont marqué les deux ligues. C'est pas si évident, hein?
Non.
Il n'y a pas tant que ça des joueurs qui ont marqué la NBA et la Pro A. Et puis le quiz sera consacré à l'actualité avec là aussi des petites passerelles entre le championnat de France et la NBA.
The Bridge.
Vous êtes prêts? The Bridge, yes. The Golden Bridge. Vous êtes prêts?
Oui.
C'est parti
oui. Pour
un Basket Time spécial finale.
The Celtics, the Mavs. Who has the early edge in the series? Mavs, Celtics.
Made it one-on-one with Turner, who's got five fouls. Step back, three-pointers up. It's good. Jackson Tatum from downtown. That's it. It's over. The Celtics are heading back to the NBA Finals.
Doncic, the Rovers for the lead. Got it. What a shot. Dallas has taken the lead.
It's Kyrie knifing, piercing the paint. Gets the deuce.
Jaylen Brown the drive. Leans in. The floater's up. It's good.
Tatum on the drive. Goes inside and throws it down.
66 combined points. Doncic.
I like the Celtics.
I like Dallas.
I got the Celtics in six.
Absolutely spectacular.
L'affiche de la finale NBA donc 2024, ce sera Boston Celtics, Dallas Mavericks. Vous allez me dire qui est votre favori sur cette série. Le premier match, c'est jeudi à 2h30 du matin. Et tous les matchs donc sont programmés soit à 2h30, soit à 2h du matin. Ça va démarrer donc jeudi. Ensuite, ça va s'enchaîner pratiquement tous les deux jours, tous les deux ou trois jours. Donc, Fred, me regarde pas comme ça. Je sais que t'as la haine parce que Boston est en finale.
Mais pourquoi vous dites que j'ai la haine ?
Essaye d'être objectif et de me dire qui est favori, sachant que Boston a l'avantage du terrain, mais que Dallas est inarrêtable en attaque depuis le début de ses playoffs.
Ben je crois que tu as tout résumé. En fait, l'avantage du terrain, c'est hyper important, on le sait. Sauf qu'on a vu aussi Boston parfois.
Là, ça ne les a pas dérangés, l'avantage du terrain, hein,
non,
pour
non,
l'instant.
Ça,
hein.
Eux, ça ne les dérange pas déjà. Et de l'autre côté, on a Boston qui parfois chuté un petit peu sur le match 2, sur le match 1, je me rappelle, contre Indiana. Ils le perdent, c'est pareil. Sauf qu'on avait dit, et avec Stephen, on était d'accord. Normalement, c'est des matchs qui sont importants, c'est les finales de conférence. Et ils sont à deux doigts de trébucher sur le premier match contre Indiana. Donc tu te dis. Bah finalement, l'avantage du terrain, est-ce que c'est si important que ça? Alors, leur équipe est fantastique. Porzingis sera la clé de cette confrontation.
Vraiment
pour moi. Et franchement, si je devais mettre une pièce, ce serait super difficile. Moi, par amour, parce que je préfère les Mavs, je dirais les Mavs. Mais franchement, Boston se ferait un très joli champion.
Sur le jeu, sur l'équilibre des forces en présence.
Ben, en fait, moi, je suis super fan de deux joueurs. C'est White et Jrue Holiday. Donc, forcément, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Et cette capacité à défendre aussi bien, cette capacité à jouer aussi bien en attaque, le ballon circule bien, les menaces viennent de plein d'endroits différents. Bah, c'est vrai que Boston joue très bien au basket.
Steve,
pour moi, les Celtics partent favoris quand même sur cette série par rapport à ce qu'ils ont fait sur toute la saison, les 64 matchs gagnés en saison régulière, le fait qu'ils aient perdu que deux matchs, même si c'était des équipes amoindries, et on y reviendra après sur la réelle concurrence qu'ils ont dû affronter sur la conférence Est. Maintenant, il y a quand même beaucoup de certitudes, un groupe qui a déjà connu ce niveau-là, qui a déjà connu des échéances, alors que le groupe des Mavs, bah, c'est une première pour eux, même si Kyrie est déjà champion NBA, que Lucas a déjà fait une finale de conf.
Et même
c'est...
si Jrue est arrivé, il connaît ce oui, niveau-là.
Oui, Jrue est champion NBA, voilà, Tatum, Brown, Al-Horford, ils ont fait finale NBA en 2022. Pour eux, c'est la dernière marche pour la concrétisation du projet Celtics sur ce qu'ils ont montré, sur meilleure attaque, quasiment meilleure défense de la Ligue, cette saison, cette faculté à mettre dedans à 3 points, pour moi, Boston par favori, largement, en plus de l'avantage du terrain.
Largement, tu dis.
Ça t'a pas inquiété quand même ce match? Moi, je pense encore au match 1 d'Indiana, comment tu fais pour gagner ce match qui vient de nulle part, quand t'es dominé par Indiana, chez toi, alors que normalement, tu dois...
Il y a le match 3 aussi, qui peuvent perdre. Hein.
Oui, mais...
Le match 4 même, presque, aussi.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils...
Tous les matchs, presque.
Concrètement, ils ont galéré, finalement, contre Indiana, il n'y avait pas Liberton pour le match
3. Mais la question que je me pose, t'as raison, c'est est-ce qu'ils ont galéré parce que, finalement, ils sont écrac, ou est-ce qu'ils ont galéré parce qu'ils savaient qu'ils avaient une marge et qu'à un moment donné, ils allaient passer, tu vois?
Ça, c'est la vraie question. Et ça, je suis d'accord.
Arnaud,
moi, je trouve qu'ils n'ont pas tant de marge que ça. Oui, je les mets favoris. Mais les Mavs, c'est vraiment l'équipe qui m'impressionne totalement. Je l'ai pensé, j'avais dit, je pensais que les Clippers allaient passer au premier tour. Quand tu vois...
Après, tu pensais qu'OKC allait passer. Après, tu pensais que les Wolves allaient passer.
Exactement. Franchement, c'est plantade totale.
Pour les fans de Boston, c'est pas bon. Hein. Et je pense que Boston va gagner, c'est mort.
Je suis bluffé parce que ce collectif est capable de faire par les choix de Jason Kidd. Et je trouve les Mavs lancés vraiment comme un frelon, comme on dit dans une autre émission, Pierrot. Attention, alors, Boston. Parce qu'ils sont...
C'est pas le même frelon que celui des Hornets.
Oui.
Donc, quand même, disons-le. Parce que...
Et cette association, Kyrie et Luka, ce backcourt phénoménal. Boston a les armes. Encore faut-il pouvoir les stopper. Parce que je trouve ces Mavs vraiment sur une dynamique, sur une confiance. Et Boston, la confiance. Alors tu vas me dire, oui, ils ont déroulé jusqu'ici. À voir comment le retour de Porzingis, touché au mollet depuis le match 4 contre Miami au premier tour, va se faire. Boston a les armes, mais franchement, je trouve que c'est les Mavs qui aujourd'hui s'en sortent le mieux.
Est-ce que la clé, c'est pas ça, la capacité à arrêter Luka Doncic? Parce qu'après,
personne l'arrête.
Mais c'est ça, mais du coup.
Bon, moi, je pense que Jrue Holiday peut le ralentir.
Est-ce que la clé du match, c'est pas simplement la réussite de Luka Doncic?
Elle a pris 38 et 36.
On est en play-off, justement. Il s'est élevé son niveau. Et l'avantage qu'il a, c'est que lui, il peut casser les écrans. Parce que physiquement, il a cette capacité à être physique et dur.
Parce que la réussite de Luka dans ses play-offs est absolument phénoménal. Enfin, en tout cas, ça monte en puissance. Ça monte en puissance face à la meilleure défense, ou peut-être une des meilleures défenses de la ligue. Donc. S'il a la même réussite face à Boston, il n'y aura pas de match.
Est-ce que la clé des Celtics, c'est pas plutôt d'arrêter les autres? Est-ce que arrêter Luka est pas une problématique trop complexe, en fait?
Luka à 40%.
Parce que ce pick and roll dans l'axe, il est, alors, Jrue Holiday est un très bon défenseur. Lou Dort avec OKC a fait du bon travail sur Luka Doncic, mais est-ce que c'est pas un problème insolvable, en fait? Luka Doncic. Est-ce qu'il faudrait pas que
insolvable?
Ça existe, insolvable ou pas?
Insolvable, c'est quand t'as plus d'argent.
Ça existe, mais ça veut pas dire la même chose.
C'est un problème insolvable aussi, parce que t'as plus d'oseille pour payer Luka. Merci de m'avoir corrigé, mais est-ce que tu ferais pas mieux de contenir PJ Washington à 10 points, d'essayer de contenir Kyrie à moins de 20?
En gros,
si tu te sacrifies sur Lucas et que tu.
Non, mais je dis pas que c'est
ça marche pas, qu'est-ce que tu fais, en fait?
Non, mais je pense que c'est la solution,
en fait.
Sauf que le problème, c'est qu'à côté, t'as Kyrie qui peut lui aussi créer du jeu et qui peut jouer à 4 contre 4 et à 4 contre 4 quand t'as Kyrie en face. C'est pas si évident que ça non plus.
Mais l'avantage de Boston, c'est d'avoir plein de joueurs capables de défendre. Ils sont tous capables de défendre. Jrue, Derrick White, Tatum, Brown. Donc, quelque part, t'as aussi cet avantage Boston.
Tatum n'ira pas sur Lucas.
Non. Mais t'es obligé de mettre un peu de taille, donc Brown.
Brown, c'est celui qui a le plus défendu en saison régulière sur Lucas, hein, qui a passé le plus de minutes. Mais maintenant, il va se relayer à 3. Tu peux pas dire à un seul mec, non. C'est toi, parce que sinon tu le crames.
Mais t'as la taille à gérer.
Tu le crames.
Parce qu'un Drew sur Lucas. Oui,
sauf que si tu mets Brown sur lui, offensivement, il va manger. Ça va être difficile physiquement de défendre sur toute la soirée. Sur un Luka Doncic et après se dire allez,
c'est pour ça qu'il faut se relayer, voir ce que vont faire Boston sur les pick and roll, parce que c'est une équipe qui a tendance à beaucoup switcher, oui. Même avec Al Horford, et je suis pas sûr que ça soit aidé le Dominicain de se trouver en un contre un face à Luka Doncic. Si Al Horford prend tout de suite des fautes, c'est compliqué. Tu sais pas dans quel état. Alors Porzingis va jouer le match 1, mais dans quel état, ça fait presque un mois qu'il a pas joué au basket. Mais effectivement, lui, ça peut être le facteur X, parce que ça pourrait forcer les Mavs à ne pas jouer avec Gafford et Lively et mettre Maxi Kleber beaucoup plus de minutes, qui est le seul qui peut aller vraiment en large et tenir Porzingis.
Mais lui aussi qui revient.
Qui revient, mais qui a déjà joué les matchs. Donc
oui,
il est un peu plus
dans le rythme. Effectivement.
Alors je vais vous donner une stat que j'ai mis du temps à comprendre, attention. Sur les tirs créés, c'est-à-dire les tirs sans assist, d'accord, sans passe décisive.
Isolation, quoi.
Tirs créés par le shooter. Donc Luka Doncic a une stat que je trouve hallucinante de 82% sur les playoffs. C'est-à-dire il crée 82% de ses tirs, Kyrie 65% et le duo de Boston, c'est aux alentours de 50%. C'est-à-dire oui, c'est Tatum 53%, Brown 46%.
Pour toi, c'est une vraie surprise.
Non, alors la stat de Boston, elle est assez, la stat de Boston est assez bon, logique, facile à comprendre. Oui, mais alors ça veut dire un truc très simple, c'est-à-dire que Luka Doncic, tu peux pas de toute façon faire en sorte qu'il ne prenne pas de tirs. Puisque de toute façon, il se les crée, quelle que soit l'adversité. Moi, quand je vois sa réussite actuelle, je ne vois pas comment tu peux essayer de penser une solution tactique, collective. C'est impossible. En fait, si lui,
mais il ne faut pas qu'il mette,
il est au-dessus.
Il ne faut pas qu'il mette 36 et qu'il fasse 15 passes.
C'est son pourcentage qui va être clé. C'est de le remettre
c'est
comme
ça,
au début des
exactement.
Playoffs, où il était à 42% au début des playoffs.
S'ils mettent dedans, ils sont injouables. Je pense que c'est assez clair. Parce que maintenant, ils ont quand même une équipe
qui est vraie pour Boston aussi, Pierrot. Et surtout pour Boston, s'ils mettent dedans, ils sont injouables.
Mais il y a des matchs où ils sont un peu moins efficaces. On l'a vu notamment contre Indiana.
Oui, mais l'avantage de Boston, c'est qu'il y a plus de solutions aussi. Pour trouver des shoots à 3 points, pour être adroit. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les deux stars qui vont être là, qui vont mettre les points, mais il y a d'autres joueurs qui sont capables de mettre des gros shoots. Demande à White, par exemple, White qui a été monstrueux sur certains matchs de play-off. On a Jrue Holiday aussi. Je trouve que cette équipe de Boston est plus complète. Alors effectivement, il peut se créer ses shoots tout seul, parce que le ballon ne revient pas vers lui, parce que le créateur à côté de lui, c'est Kyrie qui peut créer pour lui, mais qui ne va pas créer pour Lucas en fait. Lui, ouais, il crée pour lui-même.
Mais attention à la dépendance que je trouve parfois trop forte de Boston sur le tir à 3 points. On a vu sur le début des playoffs.
Tu ne vas pas leur changer leur ADN.
Non, mais je trouve que quand ils ne mettent pas dedans, ils sont clairement ric-rac. Ils sont vraiment, je trouve, ils ont du mal.
Ah oui, mais ça a toujours été la problématique de Boston. Quand tu prends plus de 40 tirs par match à 3 points en moyenne et que tu es à 40%, ça te fait gagner les matchs. Et le soir où tu ne mets pas dedans, surtout que là, ils vont affronter deux bigs qui pourraient. Je ne sais même pas si Lively et Gafford vont vraiment avoir un rôle prépondérant, parce que Horford et Porzingis, ça passe son temps au large. Et je ne suis pas sûr que Gafford et Lively aient les capacités à défendre cette
défense. Oui, mais dans une soirée, si. Parce que l'inverse, c'est qu'offensivement, tu vas les attaquer dans la peinture. Oui, dans une sale soirée d'adresse,
tu vois
ça peut
que
être
Luka, dès qu'il n'a pas le bon shoot, il les nourrit et eux, ils mettent, parce que les passes sont tellement bonnes que c'est des paniers faciles.
Mais c'est pour ça que je rejoins Stephen. Il vaut mieux le couper en fait, Lucas. Dis ok, vas-y, tu vas nous faire du Lucas. Et par contre, tu ne feras pas
décisif. Il ne faut pas qu'il fasse 15 passes, parce que s'il met 30 et 15 passes.
Il est quand même à 9 passes de moyenne sur les playoffs, hein. C'est monstrueux.
Oui. Et puis Dallas, c'est l'équipe qui met le plus de tirs à 0 degré avec PJ Washington sur des skips passes à l'opposé, Lotis Regal, même Derrick Jones Jr. qui est très bon. C'est une série qui est pro. Maintenant, je peux pas faire Dallas mes favoris par rapport à ce qu'on a vu. Ça fait 95 matchs qui a été joué en NBA. Boston m'a montré assez de choses quand même dans le jeu sur la saison régulière.
Sur la montée en puissance des playoffs, j'ai l'impression qu'ils sont dessus.
Qui Dallas?
Ouais, qui sont sur le momentum.
Pour employer mais est-ce que ton jugement vient pas du fait que Dallas était cinquième et a battu les Clippers, a battu OKC, a battu les Wolves, qui étaient trois meilleures équipes, alors que Boston, ils sont là, on les attendait là en fait, et ils ont battu des équipes amputées de Butler, amputées de Mitchell, amputées d'Ali Barton. Est-ce que ça n'a pas enlevé un peu de crédit à Boston en finale NBA
Déjà l'Est, en principe, ça t'enlève du crédit, parce que tout le monde pense que l'Ouest est largement au-dessus, donc ça t'enlève du crédit.
Dallas, 52 victoires en saison régulière, ils sont cinquième à l'Ouest, ils sont deuxième à l'Est. Hein.
Ouais, c'est ça. Ça change beaucoup de choses. Et après, effectivement, ils ont joué contre des équipes où il manquait beaucoup de joueurs. Et finalement, ils sont passés ric-rac. Honnêtement, je trouve que le 4-0 contre Indiana.
Il est hyper sévère. Si tu veux pas gagner un match.
Ouais, maintenant, tu tripes sur le pied à prendre. Mais je suis d'accord. je suis d'accord. Sauf que, ça ne peut pas te convaincre, en fait.
Et dernier élément de cette finale, c'est Kyrie Irving qui a quand même. une dent contre Boston.
Ou l'inverse. Il a dit qu'il avait
grandi ici. On te fait venir, ah tu restes pas, ah.
Après, ouais, mais après est-ce que c'était très mal passé quand il est avec Brooklyn, il joue Boston en playoff, il met un buzzer beater, il fait un middle finger au public des Celtics.
Donc
après l'inverse,
lui va être très très motivé encore
après
plus
la,
que une finale.
L'inverse c'est vrai
classique.
Parce que Porzingis est attendu à Dallas aussi. Hein.
Ouais, moi bon, bon.
Ah non, t'as
et Luca l'attend.
Il a la chair. Ah bon. Non,
mais
bon,
là, t'es pas sur la même.
Il y a de la rancœur. Hein.
T'es pas sur le même niveau de joueur non plus. Sur ce que tu peux faire avec de la haine. Je pense que Kyrie va le transformer, va plus le transformer en or que.
Non, mais je te parle des antagonistes public-joueurs.
C'est pour ça, c'est que moi je parle du joueur, parce que le public il joue pas quand même malgré tout, tu vois.
Non, mais Porzingis il peut faire une super série justement pour montrer que ça s'est pas bien passé à Dallas, pas de sa faute en fait.
C'est pas le même joueur que Kyrie Irving quand même.
Évidemment, mais c'est quand même un très très fort joueur.
C'est pas le même pédigré, mais bon, respecte de l'éton.
Mais c'est l'inimitié un peu entre lui, entre Porzingis et Luka. Voilà,
c'est aussi, c'est, ça s'est mal passé entre les deux. Alors ils veulent pas le dire, ça se lit entre les lignes. Mais le duo a mal fonctionné. Mais après, est-ce que l'avantage du terrain, avec ce qu'on a vu, faudra regarder dans les chiffres. Je suis pas statisticien, mais est-ce qu'il n'y a pas eu le plus grand nombre de victoires à l'extérieur cette année en playoff?
Surtout beaucoup à l'Ouest,
il y a eu beaucoup de victoires à l'extérieur. Mais c'est clair.
Est-ce que l'avantage du terrain finalement, est-ce
que la série Minnesota Denver, oui.
Pronostic Fred.
J'aime bien faire tes pronos, toi.
Ouais,
voilà, ça c'est amusant.
4-2 pour Minnesota.
Minnesota, il y a la consolante apparemment.
Ouais. Pour
Arnaud
4-3 Dallas.
Et Steve
4-3, donc ça veut dire gagner un match 7 au TD Garden. Ça, je retiens pas cette solution-là, donc je vais dire 4-2 Dallas.
Donc vous m'avez tous dit que Boston est favori, mais que c'est Dallas qui va gagner.
Oui, moi c'est un problème du cœur, moi, Pierre.
Mais moi aussi, c'est un problème de.
Et toi, Pierre?
Moi, je pense 4-2 Dallas aussi.
Ah oui, toi aussi?
Ouais.
Mais toi, t'as dit Dallas, c'est favori.
Pour moi, c'est mes favoris, ouais. Sur ce qu'on a vu jusqu'à présent. Hein.
Tu sais qui est le deuxième champion NBA de l'effectif des Mavs?
Le deuxième champion
oui,
NBA.
Il y a Kyrie qui a déjà gagné une bague et qui est le deuxième.
Alors, on va faire un petit tour d'horizon rapide.
C'est passé le quiz avant l'heure. Le deuxième champion.
Alors, c'est pas une question du quiz. Hein, donc,
Champion avec les Lakers en 2020, dans la bulle.
En 2020.
Un frère jumeau.
Il n'y a pas un Maurice?
Si, Markif Maurice, il est là.
Il est encore là.
Oui, il est au bout du bord. il donne la cristalline. Ah,
oui. C'est pas une question du quiz, hein, donc Fred, sois rassuré. On va passer
lui, eu un coup de pression.
À la Betclic Elite dans ce spécial final.
Yokobo, Mike James. Oh là là là. Ah, ce climatiseur.
Mike James.
Un jeu à 3 points. C'est terminé. Le champion de France retourne en finale, un an plus tard.
C'est pour tout Kevin. Oh,
Kevin
exceptionnel.
TJ Shorts, MVP.
Eh bien, après TJ Shorts, c'est la Dérifi.
C'est un couple de MVP.
Il va devoir jouer TJ Shorts. Il se lève avec la faute. Antoine, panier avec la faute de TJ Shorts dans la contre. Il est loin, la Dérifi. La Dérifi à 3 points. C'est trop tard, la Dérifi.
Alors évidemment, c'est pas la même ambiance quand Monaco va en finale ou quand c'est Paris, mais c'est normal, Fred, c'est pas une critique, puisque Monaco, on les attend là, Paris, on les attendait pas là. En plus, ils battent l'ASVEL, qui était le deuxième gros bras du championnat de France. Et puis, la trajectoire de Paris est assez impressionnante quand même. Hein. Après avoir gagné une Coupe d'Europe, ils se retrouvent en finale.
L'Eurocoupe et la Leaders Cup quand même déjà. Pour
Leaders Cup, la Leaders Cup, ça l'intéresse pas. Depuis que c'est plus chimiqué, ça l'intéresse plus. Quoi.
J'avoue que la Leaders Cup, moi, les trophées de mi-saison, je comprends pas le délire. Mais bon, c'est pas grave, on ferme la parenthèse, ça n'a pas trop d'intérêt. Est-ce qu'ils peuvent aller encore plus haut et faire tomber Monaco? On s'attaque à une montagne là quand même. Monaco, c'est autre chose, c'est quart de finale de Euroleague, c'est un effectif pléthorique.
Mais sur les rotules,
vas-y Arnaud.
Bah, y a Mike James qui est à peine revenu d'une blessure à la hanche. T'as Moti Junas, un peu compliqué. John Brown aussi. Mam JT qui est encore sur le flanc. Je parle sur le
non, ils ont rejoué.
Ils ont rejoué aussi.
À Bourg le match 4.
Ils ont rejoué à Bourg le match 4.
Il y a que Moti Junas qui n'a pas rejoué encore.
Mais tu vois, et peut-être que aussi le coaching très restreint de Obradovic qui a tiré sur la corde des mecs tout au long de l'année, ils sont peut-être en train de le payer avec pas mal de bobos. J'ai quand même un point d'interrogation, c'est un petit peu comme le débat Boston-Mavs. Oui, Monaco a toutes les armes et est le favori. Mais quand tu vois cette équipe de Paris, ses rotations, cette intensité, tu te dis pourquoi pas. Mais quitte à mettre un billet, on met quand même Monaco. Surtout sur une série.
Fred.
Moi, j'ai juste un problème avec le calendrier déjà.
Alors, les Parisiens ont gueulé, hein, parce qu'ils estiment que c'est trop tôt, ils jouent ce soir.
C'est évidemment
après
trop
avoir
tôt.
Joué dimanche.
Parce que c'est une équipe qui a beaucoup de débauche d'énergie. Alors oui, ça resserre un petit peu du côté de Paris. Les rotations, ça joue un petit peu plus qu'avant, peut-être. Mais ça met toujours beaucoup d'intensité, ça met beaucoup de points, ça court beaucoup, ça joue. C'est allé en 5 quand même, hein, contre l'ASVEL. Donc ça veut dire qu'ils ont enchaîné il y a 2 jours, enfin le 2, et ils rejouent le 4 directement en finale. Et moi je trouve que c'est un petit peu dur quand même, pour vraiment avoir
après,
sa chance.
C'est
un petit peu
mais c'est le privilège de ceux qui gagnent leur série rapidement.
Oui, mais il y a eu un changement au niveau de la Ligue.
Après, c'est à cause des Jeux Olympiques. Hein. Il y a un impératif de fin de compétition qui fait que tout est rapproché. Maintenant, quand Arnaud parle d'aspect fraîcheur pour Monaco, moi j'ai envie aussi de parler de l'aspect fraîcheur de Paris. Bah, il l'a dit avec ça, avec ce match 5, ils ont galéré aussi contre Cholet au premier tour. Ils ont joué énormément.
Perdu un match.
Ils ont joué énormément de matchs.
Ils ont joué 8 matchs depuis le quart de finale.
Ils ont joué beaucoup de matchs cette saison avec l'Euro Cup où ils sont allés au bout. Et la Leaders Cup. C'est important, il y a 3 matchs, Leaders Cup, Pierrot. Et ça se voit sur les chiffres défensifs. Cette équipe qui était la 4e meilleure défense du championnat et la meilleure défense de l'Euro Cup a pris 90 points de moyenne depuis le début des playoffs contre Cholet et l'ASVEL. C'est là où tu vois qu'il manque un petit peu de jus. Ils ont toujours ce talent en attaque avec incarné par TJ Short et Nadir Hiffy. Mais le problème, c'est que cette équipe de l'ASVEL avait des gros points faibles, ciblés par Paris, qui sont Nando De Colo, Youssouf Afal, Mike Scott et Deshaun Thomas, qui sont des garçons.
Ça fait beaucoup, mais
offensivement, sont hyper importants. Mais défensivement, ont été ciblés et
ils ont payé. C'est pour ça que Paris a beaucoup de points. Monaco n'a pas ces points faibles là défensivement. Il n'y a pas un mec qui ne peut pas défendre à Monaco. Jordan Lloyd défend. Mike James est capable de défendre. Mathieu Strasel défend encore. Elio Kobo, bon, il a des cannes, il peut défendre. Et puis à l'intérieur, il y a du matos de ouf à Monaco.
Et puis John Blount, c'est quand même ta tour de contrôle. Il est revenu, il a joué le dernier match.
Exactement.
Si
Moti Younas est là et rejoue, c'est une problématique supplémentaire parce que Paris n'a pas l'habitude de jouer des postes 5 capables de jouer deux au panier et mettre des points. Donc comment ça va s'organiser?
En même temps, leur décharge, ça n'existe plus. Donc c'est logique,
c'est vrai.
Plus l'habitude.
Mais moi je trouve je pense que Monaco est favori même si ils ont battu Monaco en Leaders Cup Paris Basket
mais deux fois en saison régulière
mais il y a 2-0 en saison régulière pour les Monégasques donc moi je vois pas comment Monaco qui surtout n'a toujours pas gagné le moindre trophée cette saison, ça fait tâche quand tu t'appelles Monaco avec l'effectif que tu as. Je pense qu'il y a une vraie, pas dire la haine, mais je pense qu'il y a une vraie rancœur de Sacha Obradovic de ne pas avoir encore une nouvelle fois être élu coach de l'année et que c'est Thomas Issalo qui est coach de l'année et il est en face, donc il va y avoir une bataille de coach aussi. Et je pense que Sacha Obradovic, rappelez-vous l'année dernière, il avait bien les boules de ne pas être coach de l'année et là il ne l'est pas. Je pense que les deux auraient mérité, mais je pense qu'il va avoir à cœur quand même de taper Paris Basketball. Moi, je ne vois pas Monaco perdre en fait cette finale NB. C'était à la rigueur l'année dernière la démotivation parce que tu as fait le Final Four, t'es déçu, ça les a pas empêchés de gifler les Mets en finale. Ouais. Là, après, est-ce que Paris, là, il y a zéro trophée, gros. Tu peux pas partir en vacances.
Tu peux pas
avec
partir.
Zéro trophée. Gros.
Est-ce que Paris, c'est pas un peu plus solide que l'an dernier Boulogne-Levallois?
Mais évidemment, évidemment, tu peux même pas comparer. Cette équipe, elle a en plus du vécu. On l'a déjà dit, c'est quasiment l'ancienne équipe de Beaune. Donc
parce que l'an dernier, il y a pas eu match en finale. Mais,
et évidemment, et là tu joues en plus contre TJ Short qui est quand même MVP de l'Eurocoupe, MVP de la LNB, c'est quand même très très fort en face. T'as Nadir Hiffy qui peut prendre feu et t'as surtout une vraie équipe autour, ça court, ça met de l'intensité. Franchement, puis, moi vraiment, hein, ce problème de date me pose un vrai problème parce que cette équipe, justement, c'est sur l'énergie et sur la fraîcheur. Et là, tu te retrouves à jouer 2 jours après. En gros, tu finis le match, quasiment, le lendemain, tu prends l'avion.
Oui, c'est ça. Ils n'ont pas voulu prendre un jet privé, ça coûtait trop cher. Donc, ils ont pris une ligne régulière pour partir
à Nice.
Pour arriver à Nice et aller à Monaco.
Est-ce que ça te met dans les meilleures conditions quand même pour enchaîner? Alors, certains diront oui, mais c'est mieux de jouer que de. Sauf que c'est la fin de saison.
De pas avoir un jour de repos, vraiment.
Il y a eu beaucoup de. T'as même pas le temps de célébrer vraiment. Vraiment, parce que finalement, c'est ta première finale pour le club et pour un club parisien depuis longtemps. Et tu ne peux pas célébrer, t'enchaînes directement, ta fraîcheur physique, elle est forcément entamée. Et tu joues contre une équipe qui encaisse moins de 77 points. Donc, c'est-à-dire que défensivement, ils vont te museler, ils vont être durs, ils vont être forts.
Ils ont tout pour stopper Paris. Donc, ils sont costauds, Blossom Game, Brand, tu l'as dit, Danta Hall, ça dépend qui va laisser en touche parce qu'il y a 7 étrangers du côté de Monaco, donc il y a forcément un mec qui reste sur la touche.
Il peut changer à chaque match?
Oui, il peut changer à chaque match. Tyson Ward, qui a un avantage en général sur le poste 3, là, il va taper Alpha Diallo, l'avantage physique de taille. Il l'a plus. Et puis, Monaco est une équipe beaucoup d'orgueil, beaucoup d'ego. Mike James, TJ Short. Ah, TJ Short, c'est lui le chouchou de l'LNB. C'est lui le meilleur meneur. C'est lui qui fait la chanson.
Rentre dans ma poche, mon gars.
Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Mais c'est exact. J'ai pensé à ça tout de suite. Mike James, j'ai pas motivé d'habitude.
Il va vouloir lui casser la bouche. Ils vont vouloir montrer Paris Basketball. C'est super le projet. C'est bien la capitale, l'Eurocup. Eurocup, c'est bien. Mais bon, c'est un peu en dessous de l'Euroleague. On va vous montrer un peu qui est l'équipe référencée en France.
Mais ils sont taquinés avec Bourg-en-Bresse déjà, un petit peu. Donc, tu dis que. Et Bourg-en-Bresse, finalement, c'est pas à ce niveau de hype. Donc t'imagines quand ça va être le Paris Basketball?
Le projet de Paris Basketball, là, Thomas Sisalo qui est courtisé par les Wizards, paraît-il, hein, je ne sais pas si l'info est bonne, ça peut remettre en cause beaucoup de choses quand même,
dans
non
staff, hein,
ça,
dans le staff des Wizards.
Peu importe, s'il s'en va de Paris, c'est un gros coup dur quand même, non?
Bah après une seule saison, sachant que ce qui fait tout, presque pratiquement les joueurs sont venus pour lui.
Ça, et puis dans cette équipe qui ressemble, cette équipe c'est lui.
Sachant qu'il y a déjà quelques joueurs qui départent, je crois que c'est Colin Malcolm ou Justin Simon qui est convoité du côté de Milan aussi.
C'est Tyson Ward.
Presque le deuxième meilleur joueur derrière TJ Short. Donc à voir. Et puis l'Euroleague, ça se fait aussi un petit peu attendre.
Ils ont toujours pas annoncé. Hein.
Bah, que l'Euroleague donne l'invitation, on vous invite. Et puis financièrement, il y a tous ces paramètres.
C'est Paris qui doit dire on y va ou on n'y va pas. Parce que Paris a gagné son droit. Mais je crois qu'ils ont envie. Ils ont envie d'avoir des garanties supplémentaires.
Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est pas avoir
plusieurs saisons.
Un qualif. Ils veulent une invitation pour plusieurs saisons garanties.
Parce qu'en gagnant l'Eurocup, tu es obligé d'être dans les 8 pour prolonger ton bail, en fait.
Ce que fait Monaco depuis le début.
Exactement. Oui. Mais Thomas Sisalo part, alors que le projet est bâti autour de lui, qu'il y a l'Euroleague l'année prochaine qui arrive, que des garçons sont venus de bonne pour l'accompagner, que son staff l'accompagne aussi.
Il partirait, tu penses?
Je sais pas, la NBA.
C'est toujours intéressant. Hein.
Surtout NBA, sur un poste à Washington où tu as confirmé un coach un peu.
Peut-être qu'il va gagner moins de matchs à Washington en jouant 82 qu'avec Paris Basketball en jouant 50.
Après, il en a joué combien, ouais. Je sais pas combien il en a joué. Oui,
tu vas pas loin d'être de 70. Ouais.
Après, financièrement, c'est pas le même statut aussi.
C'est sûr.
À voir ce qu'il veut faire. Mais par contre, tu perds ton coach, c'est tout le projet qui est mis à mal et qui repart à zéro.
Bon, et vous voulez toujours pas de TJ Short en équipe de France? Non, c'est toujours pas.
De TJ Short?
Ouais, vous voulez pas.
On a déjà refusé des meneurs un peu plus petits.
Pierrot, dès qu'il voit un bon meneur de jeu américain, il veut naturaliser, en fait.
On a déjà refusé Francisco parce qu'il était trop petit. Je vois pas pourquoi prendre TJ.
Il est vraiment bon, lui, non?
Oui, franchement.
Il est exceptionnel.
5 passes sur les playoffs.
C'est pas parce que c'est pas un nom, c'est pas un mec qui est appelé à avoir une carrière extraordinaire. C'est un bon joueur de basket, quand même.
Mais il va avoir une carrière assez fantastique, quand
même. S'il était français, je veux dire.
On serait content de l'avoir au JO.
Il serait titulaire tous les jours, non?
Bah, évidemment. Surtout au poste de meneur, on a des difficultés.
Et s'il avait un tir à 3 points, il serait pas là.
Donc pourquoi pas? Parce qu'on a fait la sérénade à Joel Embiid qui nous a mis une carotte. Bah, pourquoi pas viser plus bas? Sur un poste qui nécessite.
Mike James aussi.
Viser plus petit.
Non mais Mike James, c'est un boucan, on le sait. Mike James, tu prends un risque colossal.
Non, tu penses à un Lorenzo Brown avec l'Espagne, par exemple.
Voilà, par exemple. Il ferait pas du tort, TJ Shorts. Mais je sais que vous voulez pas en entendre parler. Mais
en fait, moi, ce truc de moi, les naturalisés en équipe de France ne me dérange pas. Uniquement si c'est un joueur exceptionnel et qui fait passer l'équipe de France dans une autre galaxie. TJ Shorts, un bon joueur, mais tu me vois jouer à l'Embiid là. TJ Shorts, c'est pas jouer à l'Embiid non plus.
C'est pas Ulysse 31, quoi.
Non, pas
d'une autre galaxie.
Exactement.
Okay, bon, donc on laisse
tomber. Pronostic
3-0 pour Monaco.
Ah ouais. Frédéric?
Non.
Minnesota?
Minnesota, je pense. 3-2.
3-2. Arnaud?
Monaco.
3-1 Monaco.
3-1 Monaco.
Très bien. Nous allons passer à la partie historique. On a innové cette semaine.
Limoges, sans sortir un jeu extraordinaire, revenait très vite au score. Rassirtou à Tripuka, 15 points en fin de rencontre. Ostrowski, 20 points. Brooks, 16 points.
That's a tough shot, Michael Ray. Michael Ray Richardson.
Richardson qui prend la responsabilité, qui marque.
Et donne le titre à Antibes.
With his 13th pick, the Philadelphia 76ers select Thabo Sefolosha.
Sefolosha pucks it away and the steal takes it from Way. Drives underneath and pucks it
in. Ouh, il est contré par Clint Capella.
Il a contré un dunk. Il a contré le dunk.
Oh my goodness.
And one.
The dunk over Joe Alexander.
Diaw for three. That's the kind of ball movement we saw in San Antonio. Diaw. What a sensational game for Boris Diaw.
Diaw on the drive.
Oh boy, don't do that, Boris.
Lingerie on the floor. Ball in the basket for Boris.
Alors, vous allez me parler des joueurs qui ont marqué l'histoire de la NBA et de la Pro. Alors, évidemment, c'est un peu le grand écart, hein, parce que c'est vraiment pas le même niveau. Ce qui est donc logique, c'est d'avoir galéré pour trouver des joueurs qui correspondaient au profil recherché. Donc, ils ont marqué l'histoire de la NBA et de la Pro A. On va démarrer avec Stephen Brun.
Oui, bonjour.
Un joueur qui a marqué la NBA, Nicolas Batum.
Oui, par exemple, moi j'ai choisi un joueur qui a fait le chemin États-Unis, Europe.
Okay.
Souvent, c'est des gamins qui démarrent en Europe, et ensuite qui vont aux États-Unis. C'est un garçon qui s'appelle Michael Ray Richardson, et qui est Sugar Richardson, qui a 69 ans aujourd'hui. C'est un garçon qui a été drafté en quatrième position, deux places devant Larry Bird en 1978, par les Knicks de New York, qui le voyaient comme le futur Wolf Frazier, c'est-à-dire un garçon capable de tout faire sur un terrain. Et ils vont pas avoir tort, parce que Sugar Richardson va rayonner sur la NBA par sa polyvalence. Premier joueur de l'histoire dès sa deuxième saison NBA, être à la fois meilleur passeur et meilleur intercepteur de la Ligue. 18 triple-double avec les Knicks, sa deuxième saison NBA. Il sera All-Star trois fois avec l'équipe de Big Apple. Ensuite, il est transféré. Il sera All-Star une quatrième fois en 85 sous le maillot des Nets, une franchise avec laquelle il sortira les Sixers, ce premier tour des playoffs, champion en titre, et qui fera de lui le meilleur comeback de l'année. Pourquoi comeback ? Parce que l'année d'avant, il avait joué que 48 matchs, suspendu pour abus de produits néfastes à la santé. Michael Richardson qui...
Quels étaient les produits incriminés?
Les crêpes, il fait des crêpes. Il fait beaucoup de crêpes à une époque où en NBA, dans ces années-là, qui est rempli de cocaïne, et que David Stern essaye justement de nettoyer cette ligue-là. Il y a un nouveau règlement qui arrive. Au bout de 3 contrôles positifs, vous êtes exclu à vie et banni à vie
de
l'NBA. En même temps,
t'es prévenu 3 contrôles. Quoi. C'est pas,
oui. Mais Sugar Richardson a ce vice-là, et pas que, parce qu'il a un penchant aussi pour le luxe. À New York, il a acheté une Rolls-Royce, une Porsche, une BMW, une Jaguar, une Mercedes, et il est souvent au bras de jolies demoiselles, alors qu'il est marié, ce beau Sugar Richardson, petit coquin. Donc en 86, il échoue pour la troisième fois un contrôle antidopage, et donc c'est la troisième fois de trop. La sanction tombe. David Stern va radier pour la première fois à vie un joueur en NBA, et c'est comme ça que la France va accueillir un quadruple star. Alors, il est parti avant en Italie, il a dominé l'Italie avec la Virtus Bologne, et nous sommes en 1994. Il débarque sur la Côte d'Azur avec comme coach Jacques Monclar. Il devient vite la coqueluche de la Côte d'Azur. On le voit même faire quelques soirées avec DJ Corti, un certain DJ Corti.
Alors donc il a pas arrêté les crêpes.
Je crois qu'il a pas arrêté les crêpes, il fait des galettes complètes. Mais il laissera un souvenir impérissable, notamment le titre de champion de France en 95 sur le parquet de Pau, où il marque le tir de la gagne, un tir que Jacques lui donne alors que son joueur est à 2 sur 17 au tir. Il lui dit: j'ai quand même confiance en toi. Il met le tir sur la tête de Petit Tout à 40 ans, Freddy Fautou, qui prend le tir de la gagne sur le museau à Pau. Il fera également une pige à Cholet à 43 ans, où il remportera la Coupe de France et finira même par aider Antibes à se maintenir à 46 ans. Et à 46 ans, il fera un match à 19 points contre le Havre. Et je vous conseille un documentaire qui s'appelle Whatever Happened to Michael Ray. Ça vous expliquera plus en détail la vie de ce garçon. Et il a eu 2 enfants. Et il y en a un qui a fait l'actualité cette saison, Pierrot, qui s'appelle Amir Richardson, et qui a été une des révélations de la Ligue 1 au Stade de Reims.
Révélation.
Amir Richardson, c'est son fils.
En provenant du Havre, oui, c'est son fils. Ouais.
Ah
ouais.
Oui, il n'a pas beaucoup joué, hein, beaucoup sur le banc.
Ouais, mais joueur... T'as vu sévère quand même.
Joueur très
prometteur. C'est un gamin que j'ai envie de mettre en avant, et l'autre, il lui chie dessus. Bon.
Non, international marocain, joueur très prometteur, il a du ballon. Ça c'est vrai.
Non mais surtout voilà. il a eu des plus de minutes qu'escompté. Après oui. Deuxième partie de saison, il a un peu plus de mal.
Un peu blessé, mais pas beaucoup titulaire.
Bon. Amir Richardson,
c'est pour ça que vous avez fait une saison de merde aussi.
Une fin de saison, oui.
Donc Richard Ray, non, c'est pas Richard, c'est
Sugar.
Michael Ray Richardson, c'est le gars de Jacques.
Oui, c'est le gars de Jacques.
À toi, Arnaud.
Qui peut se targuer d'avoir été double champion de France, MVP français, champion NBA, MIP et vainqueur de la Coupe des Landes?
C'est le joueur préféré de Pierrot.
Voilà. Absolument, notre Babac national. Donc formé à l'INSEP, il arrive à Pau en 2000. En 3 ans, il rejoint 2 autres pépites issues du centre de formation de l'Élan Béarnais, c'est les frères Pietrus. Champion de France en 2021, en 2001 avec un petit rôle. Finale en 2002 face au grand rival de l'époque, l'ASVEL. Puis de nouveau champion en 2003, où cette saison il a tourné à 7 points, 5 rebonds, 3 passes, 13 dévals en 25 minutes, 42% à 3 points donc pour Boris Diaw, élu MVP français. Une équipe où les joueurs majeurs étaient notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, Rod Seller, Dragan Lukowski, il y avait aussi Cyril Julian. Titre donc de MVP français, et là c'est le moment pour le grand départ
vainqueur
pour la NBA.
Vainqueur du concours de dunk, tu l'as dit.
Vainqueur du concours de dunk, effectivement, Stephen. Départ pour la NBA, drafté par Atlanta, 21e choix. Début correct en sortie de banc dans une franchise qui ne gagne pas un match. Il va même débuter dans ce collectif. Il y avait Stephen Jackson et Jason Terry. 28 matchs gagnés la première année. Sharif Abdourahim tradé en plein milieu de la saison. saison. L'année d'après, c'est guère mieux collectivement. Et là, il débarque à Phoenix en 2005 dans le cadre d'un sign and trade de Joe Johnson, qui donc quitte Phoenix pour aller à Atlanta. Et là, c'est vraiment la bascule chez les Suns avec Mike D'Antoni et ce jeu run and gun. D'Antoni en fait même un starter aux côtés de Steve Nash et de Stoudemire, qui était déjà un petit peu blessé. On n'oublie pas Sean Marion ou encore Rajah Bell. Et cette saison 2005-2006, justement, il est MIP, la meilleure progression. 13 points, 7 rebonds, 6 passes. 35 minutes en moyenne, avec parfois des pointes à 40-42. Plus gros temps de jeu en carrière, même si c'est vrai qu'à Charlotte, derrière, il avait beaucoup joué. Écoutez, Bill Walton, la légende de la NBA, il était au commentaire d'un match. Il est décédé la semaine dernière, Bill Walton, et il fait une tirade absolument légendaire sur Babak.
And when you look at Boris, you know, what he's done to this franchise, he's changed everything. What a classical human being he is. It was 201 years ago today.
Yeah.
With Beethoven's Symphony No. 3 in E flat, which escorted in the age of romanticism in music. And when I look at Boris Diaw, I think of Beethoven in the age of the romantics.
Quand vous voyez Boris Diaw, il a tout changé dans la franchise. Quel bel être humain il est. Il y a 201 ans, aujourd'hui, la symphonie de Beethoven numéro 3 en mi bémol majeur sortait. Elle nous a emmenés dans l'âge du romantisme en musique. Quand je regarde Boris Diaw, je pense à Beethoven voilà. Et à l'âge romantique.
Beethoven, le chien, le film ou le compositeur.
Le compositeur. Et donc cette même année-là, parce que je regardais, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce poster de Boris Diaw sur Dirk en finale de conférence.
Non, ça ne s'est jamais arrivé, ça.
Si, si, bah, franchement.
Ça vend des trucs, là.
Bon, Dallas est quand même passé. Ils perdront derrière face à Miami. Son passage aux Spurs ensuite sera couronné d'un titre NBA en 2014 avec un Spurs basketball exceptionnel, une relation aussi incroyable avec coach Popovic.
Exactement.
Il portera le maillot de deux autres clubs français, est-ce que vous les avez ?
Bordeaux
durant le lockout.
Et Biscarros.
Et j'avais Levallois pour 2017-2018. Oui. Bon,
Biscarros,
pour terminer sa carrière.
Petite parenthèse, ils se sont fait huer lors de la finale. Ça n'a pas plu à tout le monde, l'histoire magique
des potes. Après, c'est devenu moins marrant.
Quand il y a un titre en jeu, surtout ce titre-là, oui, c'est chaud. Hein.
Et oui, bon, après, ils n'ont pas leur titre, ils ont le droit. Le règlement n'a pas été.
Et ils vont changer le règlement.
À cause de ça.
C'est-à-dire que tu vas devoir faire un certain nombre de matchs en championnat et pas juste venir pour la Coupe des Lampes pour la saison prochaine.
Très bien. Bah, peut-être qu'ils vont se taper les 25 matchs de championnat.
Non. Oui.
Bon, bref. Très bien, Boris Diaw, Michael Ray, Richardson. Et qui, mon cher Frédéric ?
Alors, Pierre, il faut
que je t'avoue. Qui a marqué l'histoire de la NBA et de la Pro A ?
Il faut que je t'avoue un truc. Je suis un gros jaloux. Et tu sais, alors, gros, tu savais déjà, mais jaloux, j'espère que tu l'apprends. Quand j'ai entendu Stephen et Arnaud avec leur choix, je me suis dit, mais je pourrais jamais faire mieux en fait, c'est impossible,
Nicolas
c'est
Batum.
Fantastique, c'est fantastique ce qu'ils ont fait. Et donc j'ai pensé à Rolando Blackman, qui a fait une saison, une carrière plutôt très sympa en NBA, et avec un seul match à Limoges, je me suis dit, c'est peut-être un peu juste quand même, pour dire qu'il avait performé en LNB. Ensuite j'ai pensé à Wemby, mais je me suis dit, en termes historiques, c'était moyen. Donc je me suis dit, je vais relire l'énoncé de la question, de savoir qui on doit choisir, et j'ai choisi un joueur qui est né à Paris. D'accord. Qui a été sous les ordres et qui a gagné l'Euroleague sous les ordres de Malkovich. Donc je me suis dit, forcément, ça te rapproche un petit peu de la France.
Un petit peu,
on est d'accord. Et c'est surtout un joueur NBA incroyable avec un prénom français. Franchement, je suis pas loin. Dominique Wilkins. Et donc j'ai choisi Dominique Wilkins parce que 12 saisons à Atlanta, les Hawks, ceux qui vont avoir le premier choix de la draft. Tu sais, peut-être un Français.
Ah ouais, non, rien
donc,
à voir.
Il fait plein de ponts. Donc, ces 12 saisons à Atlanta, 26,4 points, 7 rebonds, meilleur joueur d'Atlanta. Enfin, à égalité avec Bob Pettit. Après, un nom de famille presque français.
La même famille que TJ Short.
Bon, on n'est pas loin. Donc, il fait une saison aux Clippers, juste après ça. Et après, il joue à Boston. Tu sais, ceux qui sont en finale de conférence. T'as vu, je t'ai fait toute une boucle temporelle. Et il tourne encore à 18 points. Et malgré ça...
C'est pas validé encore. Hein. Continue.
Il décide d'aller et de traverser l'Atlantique. Tu sais, où il y a la France, par exemple. Tu vois, il part des États-Unis. Mais finalement, il ne va pas s'arrêter là-bas. Il va s'arrêter en Grèce, au Panathinaikos. Et il va être sous les ordres de Boris Diaw. Et il va gagner le titre de l'Euroleague. Le premier titre du Panathinaikos, tu sais, ceux qui viennent de gagner le titre. À l'instant T là. C'était le premier des 7 titres du Panathinaikos. Il est MVP du Final Four. Il retournera en NBA juste après, jouer
au Spurs.
À San Antonio, exactement.
Où il y a
des joueurs français qui ont performé, évidemment. Et donc, Après, il se retentera le coup en Europe en jouant à la Fortitude du Tudo. Ça se passera mal. Il partira à peu près au niveau, à peu près en janvier-février, je crois. Il va retourner au Magic. Il va s'arrêter sa carrière. Tu sais, Magic.
C'est dommage.
Où il y a eu Air France qui a joué là-bas.
C'est dommage qu'il n'ait pas fait au moins une demi-saison dans un
donc,
club français.
Pour moi, je t'ai fait une boucle. Je t'ai parlé de toute l'actualité française. Je ne pouvais pas faire.
Alors, hors sujet.
J'avais pas mieux.
Hors sujet. Tant pis, hein, c'est pas grave. Hein.
Ouais, mais hors sujet, je t'ai dit, je t'ai parlé de Boston, je t'ai parlé des Hawks, je t'ai parlé de Santonio.
Ouais, mais t'as pas parlé de Boulazac, ni de Cholet.
Non, mais bon, on rappellera que Dominique Wilkins a marqué l'histoire du basket européen, c'est vrai.
Né à Paris.
Oui, né à Paris.
Tu sais, ceux qui sont en finale de.
Il a gagné combien de fois l'Euroleague? Deux fois.
Une fois.
Une fois avec le Pana,
ouais.
Et tout.
Okay. Oui, mais le premier titre du Pana.
Non, mais.
Et c'est quelle couleur? Il joue en quelle couleur? Le Pana.
Le vert.
Boston. Tu vois, la boucle est bouclée.
C'est bête, à une année près, c'était pas un Final Four à Paris, 97, l'Euroleague?
Si.
Avec la...
Ouais, tu vois.
Paris, qui est en finale de la Bec Lekili.
Et Paris qui va accueillir les JO et les Américains.
Comme Pau ou comme l'Asvel.
Mais non, mais je voulais coller à l'actu.
Tu
me demandes de coller à l'actu, de parler de la France, de parler de la NBA, j'ai parlé de tout.
Bon.
HS? HS ou pas?
Ouais, hors sujet.
Donc, sa copie double, tu mets un HS et tu rends.
Bel effort, bonne copie, mais bon. C'est
est-ce qu'il part avec un point de retard au quiz?
Non, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est une heure de retenue, on refait le DS, et là, tu peux avoir une bonne note. Par exemple, tu aurais pu me parler de Nicolas Batum, ou vous n'avez pas voulu mon Suisse Thabo Sefolosha. Voilà, une trajectoire assez.
Clint Capela.
Ou Clint Capela, par exemple, ouais. Voilà des trajectoires quand même assez.
Non, mais, alors, je suis désolé. Pierre, je vais te dire la vérité. Moi, il me semblait que dans ce podcast, on parlait d'actualité. Je t'ai parlé d'actualité en parlant du passé.
C'est un talk historique.
Je pense que quelque part, grâce à l'histoire, nous sommes revenus à l'actualité.
Plutôt que de batailler, tu ferais mieux de recommencer ton devoir. Tu gagneras du temps, mais ça, c'est pour une prochaine fois.
Sors ton carnet, gros.
Car c'est l'heure du quiz.
J'ai pas trop coupé les cheveux en 4. C'est parti là en premier. C'est parti chez
Sing. Ouais, comme chaque semaine, c'est parti.
C'est parti là-bas en premier.
Et là,
premier.
C'est après ou pas?
C'est Alex.
Le roi des corps verts ménagères.
Ouais, exactement. C'est plus trash que ça, hein. C'est plus violent.
Fuck you.
Bah, tu te rapproches.
Asshole, motherfucker, son of a bitch.
I lock that shit up, boy. I lock fermer sa gueule à cette merde.
Il est rageux, Alex Biggerstaff. Hein.
Oui.
On dirait pas comme ça, il est petit teigneux. Hein.
Ouais.
Alors, donc, c'est un quiz, on va un peu mélanger actu française, actu NBA, c'est beaucoup d'NBA quand même.
Tu veux dire, comme ce que je viens de faire sur Dominique Wilkins?
Oui, mais ça, moi, je fais ce que je veux, c'est mon quiz. Donc, alors, on démarre. Je vais vous donner, écoutez bien l'intitulé, parce que parfois, je sais que vous avez du mal à capter. On cherche un joueur français champion NBA, on n'a pas mille, hein. D'accord?
Il n'y en a pas mille.
Un joueur NBA, okay. Français, vous n'avez le droit qu'à une réponse. Hein.
Okay.
Sinon, c'est trop facile,
bien
évidemment.
Sûr, bien sûr, Pierre.
Je vous donne trois de ses coéquipiers et vous devinez le joueur.
En carrière?
Vas-y. Non, l'année de son titre. L'année de son titre. Non, sinon, c'est trop compliqué. Une seule réponse possible, on démarre avec Stephen Brun, Elijah Bryant, Jeff Teague, PG Tucker.
Axel Toupane.
Excellent. Arnaud Valadon, Steve Smith, Malik Rose, Kevin Willis.
Oh.
Il l'a, Steve.
Oui. Yann Maïmi.
Mais Tony Parker, 2003, Tony... Malik Rose.
Oh. Spurs, go.
Malik Rose, enfin. Oh.
J'ai pas.
Et enfin, Fred, James Jones, pas cadeau, Joël Anthony, Shane Battier.
Si.
Bah oui.
Oh, je l'ai.
Yann Maïmi.
Le Yak,
Ronny Turia. Miami 2012. Je pensais que c'était facile, mais il n'y a que Steve qui a son point. On enchaîne avec Dallas, Boston, les deux ou aucun des deux. C'est bon pour vous?
Dallas,
c'est très facile.
En fait, on est au Burger Quiz.
Si tu veux, oui, si tu veux.
Il y a le Burger de la mort à la fin, tu dois retenir 10 réponses.
Je vous ferai ça un jour, tiens. Fred, entre 2000 et 2020, qui a joué le plus de finales NBA? Dallas, Boston, les deux, aucun des deux. Qui a joué le plus de finales entre...
Dallas.
Eh bien, la réponse, c'est aucun des deux, puisqu'ils ont chacun fait deux finales entre 2000 et 2020, puisque 2022, c'est après 2020. Arnaud, quelle franchise a retiré le numéro 41? Dallas, Boston, les deux, ou aucun des deux?
Dallas.
Dallas, il n'y avait pas de piège parce que Boston a retiré.
Il regarde Stephen.
C'était vraiment ça la question?
Oui. Mais Dallas, Boston, ils ont retiré 25 numéros de maillot. Il pourrait très c'est bien vrai, y avoir le 41.
Il pourrait avoir un papa qui a le 41.
Bah justement, si c'est un papa, il ne retire pas le maillot.
Ou alors, ils auraient pu retirer le maillot de Dirk par respect.
En hommage.
Tout le monde l'a retiré.
Comme le hit avec Michael.
Et d'ailleurs, j'ai failli vous faire la question avec le numéro 24. Car Dallas a retiré le 24. Retiré le numéro 24 de Kobe.
Ouais.
Donc ça aurait pu tomber.
Bravo Pierre.
Ensuite, Steve, quelle franchise a un entraîneur au Hall of Fame ?
Quelle franchise a un entraîneur au
Boston,
Hall of Fame ?
Les deux ? Aucun des deux.
Red Auerbach à Boston, il est Hall of Fame. Je crois que Don Nelson est Hall of Fame, donc je veux dire les deux.
Et ben c'est le bon raisonnement, et donc tu as mérité ton point. Deux points pour Steve, un point pour Arnaud, zéro pour Fred. Porzingis, Irving, les deux ou aucun des deux? Fred, je n'ai joué qu'une seule... C'est bon la question?
Oui, oui.
Je n'ai joué qu'une seule saison avec Tatum et Brown.
Porzingis?
Porzingis, car Irving a joué les deux.
Oui.
Et Brown venait d'arriver, ils étaient jeunes tous les deux, mais ils étaient là déjà. Donc, premier point pour Fred, bravo Fred. Arnaud, j'ai été coaché par Dave Fizdale. c'est pas facile ça. Hein.
Dallas.
Dallas, c'est pas une réponse.
C'était Kyrie ou Porzingis?
Non, on peut dire Minnesota aussi.
Donc la réponse serait Porzingis, Irving, les deux ou aucun des deux?
J'ai pas compris. Aucun des deux.
Ah, absolument. Ah, non, parce que Porzingis c'est DNP toute la saison, enfin la demi-saison, il y a Dave Fizdale à New York, donc il n'a pas coaché. Bravo Arnaud, tu as répondu au hasard, c'était la bonne réponse. Et enfin, je suis Rookie of the Year.
Les rookies de l'année.
Ouais. Irving, Porzingis, les deux ou aucun des deux?
Bien sûr.
Bien sûr, tu le sais ça.
Kyrie, il est rookie de l'année. Ça, je le sais. Donc ça, c'est une certitude que Kyrie va être dans ma réponse. Donc,
maintenant, déjà, ça élimine une réponse.
Ça élimine aucun des deux.
Voilà.
Ensuite, Kristaps Porzingis.
Et ça élimine aussi Porzingis seul. Donc il ne reste plus que deux réponses.
Oui. Porzingis.
Allez, tu veux que je t'aide?
Non, je pense qu'il n'y a que Kyrie Irving.
Il n'y a que Kyrie Irving en 2012. Il est drafté en 2015, notre ami Porzingis. Qui est Rookie of the Year 2016, du coup, l'année de Porzingis?
2016, c'était 8 ans.
Là, c'est pour tout le monde. Hein. Vous pouvez répondre plusieurs choses.
Comment il s'appelle? Ah.
Proposer plusieurs noms. Alors, il est dans l'actualité directement. Hein. Il est dans l'actualité, mais il ne sera pas champion NBA, quoi. En gros. Parce qu'il vient de se faire sortir.
Carl Anthony Towns.
Excellent. Il est là. Attention, il vous domine. Là, il vous monte sur la tête. Il vous met des dunks sur la gueule, Fred. Tu peux pas laisser faire ça dans ta raquette. Fais-toi respecter, merde.
Ah, moi, je ne vais jamais dans la raquette.
C'est ça le pire. Bon, et extérieur, il n'y allait pas trop, Fred, si?
Non. J'ai peur, c'est trop loin.
Alors, 4 points pour Steve, 2 points pour Arnaud, 1 point pour Fred. Quel finaliste de la Betclic Elite a joué avec Kyrie Irving?
Mike James.
Mike James, évidemment, 2021. Bravo Fred, tu vois, quand je te pique là. Hein.
Arrête de me piquer parce que sinon je vais te piquer aussi.
Quel finaliste de la Betclic Elite a commencé sa carrière pro en Lettonie?
Short.
TJ Shorts, il est là, Fred. Voilà.
Je connais mieux la belle kick.
À quelle occasion Sacha Obradovic a-t-il affronté Hakeem Olajuwon et Charles Barkley?
Aux Jeux Olympiques.
Lesquels?
92. 88.
Non.
96.
Atlanta 96, finale.
Yougoslavie, États-Unis.
USA, Yougoslavie. Alors, c'est Arnaud qui a dit 96 en premier.
Arnaud.
On va lui accorder le point, ce qui fait 4 points pour Steve, 3 points pour Arnaud et 3 points pour Fred. C'est mal payé pour Steve, hein. je vais pas vous mentir. C'est pas très bien payé, mais c'est comme ça. Tu vas peut-être marquer un point supplémentaire en reconnaissant la personne qui s'exprime sur la NBA dans cet extrait.
That motherfucker from the Nuggets, Jokic.
Iverson?
Hey, hands down, I'm like, it used to be Giannis, that nigga didn't came out of nowhere.
On aurait dû comprendre, that motherfucker.
Écoutez, il est incroyable.
When Ja Morant is on the court,
man,
I can't even front, because that nigga is different. I hate playing that nigga, man. He's different. He is a goon with the spoon. And he shoot threes, too. He worked on his three. I seen that. They thought he was going to be bullshitting. He worked on his three. Shout out to Ja Morant for working on your shot when you was off. I seen that.
Évident,
this shit, we're going to praise you, too. Niggas ain't going to just beat you down. We're going to praise you when you do right. You did that.
Snoop, qui a été lui aussi dans l'actualité, charrié par Luca. Sur son...
Who is crying now.
Bitch. Allez, encore une question et après on enchaîne avec un vrai faux sur Luka Doncic, Fred. Quel joueur de la finale NBA a joué avec Léo Westermann?
C'est pas...
Luka?
Non. C'est pas Luka.
Un joueur de la finale NBA?
Ouais.
Dante Exum?
Dante Exum à Barcelone, excellent, bravo Steve. Je voulais vous la faire avec Thomas Hurtel, mais ils se sont croisés en fait. Hurtel avait fait sa connerie, il a été sorti, s'est fait virer au moment où Dante Exum arrive et donc Steve reprend la main largement. 6 points pour Steve, 3 pour Arnaud,
3 pour Fred. Vrai ou faux sur Luka Doncic? On démarre avec Steve.
Oui.
Doncic se prénomme Luka en hommage au dragon protecteur de Ljubljana. Luka le dragon.
C'est Luka le dragon.
Luka le dragon, c'est vrai ou c'est faux?
Luka
le dragon de Ljubljana.
Oui, le dragon de Ljubljana. Alors, je suis déjà allé en Slovénie. Je sais pas, cette histoire, elle est... Non, Pierrot, t'as pas hier soir chez toi avec un verre de pinard, t'as pas inventé ce truc-là, donc je vais dire que c'est vrai.
C'est faux et je l'ai inventé ce matin. Par contre. C'est faux, c'est faux. Arnaud, Rasho Nesterovic, c'est le parrain de Luka Doncic. C'est vrai ou c'est faux?
C'est vrai.
C'est vrai, absolument. Et Fred, Luka Doncic est membre honoraire du Real Madrid Club de Football en compagnie de Carlos Sainz Jr.
C'est vrai.
C'est vrai, c'est la plus grande distinction du club. Voilà, c'est un membre honoraire du club du Real.
Tatiana Nadal aussi.
On est donc à 6 points pour Steve, 4 points pour Arnaud et 4 points pour Fred. Donc Steve a gagné parce que la question multipoint est hyper dure.
C'est vrai.
Mais vous pouvez y arriver quand même. Aux enchères. Aux enchères. Elle est assez dure. Hein. Donc on a Daniel Gafford et Kristaps Porzingis qui vont s'affronter. Donc l'un des deux sera champion NBA. Tous les deux sont passés par Washington et c'est une mauvaise habitude des Wizards de lâcher des joueurs qui deviennent champions NBA. Ça arrive sans discontinuer depuis 2017. Ok. Non, je vais vous demander juste les quatre qui sont champions l'an dernier avec les Nuggets et qui sont d'anciens joueurs de Washington. Il y en a quatre. C'est pas facile. Hein. Mais c'est Arnaud qui va démarrer l'enchère.
Quatre champions avec Denver qui sont passés par Washington.
Ouais, qui ont porté le maillot de Washington.
Je vais dire... Un.
Fred, est-ce que tu en chéris?
Deux.
Alors Steve, j'allais te dire t'es pas obligé d'en chérir parce qu'à un t'avais gagné, mais si tu veux gagner, enfin si tu veux empêcher Fred d'égaliser,
Fred m'a l'air confiant à deux.
J'en ai aucun.
Alors t'en as aucun, si t'en as quand même un, je pense.
Green.
Jeff Green, c'est bon. Allez, vas-y, courage. Allez, courage, tu peux le trouver.
J'ai envie de dire une connerie, donc...
Vas-y,
dis-la. J'ai envie de dire DeAndre Jordan.
Eh ben, c'est une connerie, donc t'as perdu, c'est Steve qui a gagné. Vous les avez, les trois autres?
Est-ce que du Bruce Brown?
Non.
Gordon?
Non.
Reggie Jackson?
Non.
Nagy?
Il y a KCP.
Kettle Pop, ouais.
Ish Smith.
Ah ouais.
Et Thomas Bryant.
C'était Bryant, c'était possible.
C'était trouvable, mais...
C'est dur.
Ouais,
c'est
pas cadeau, possible, hein.
C'est pas cadeau, complexe. Mais Steve a gagné, et là, je pense que c'est mérité. Hein. À la semaine prochaine. RMC Basket Time.